l'équipe de Comaguerre est heureuse de vous retrouver sur les ondes de Radio Galère avec du côté technique Roselyne qui est là, que je salue, que je remercie. De l'autre côté de la vitre, Habib. Bonjour Habib,
bonjour.
Merci d'être là. Et le troisième larron qui est là pour introduire cette émission. Et on va commencer par une interview téléphonique parce que vous avez peut-être entendu dire, alors ça va vous paraître d'une actualité pas immédiate et pas très chaude. En fait, c'est quand même un événement assez rare. Il s'agit du sabordage. Le sabordage, c'est une expression authentique, c'est le terme. C'est-à-dire que c'est une marine militaire qui décide de couler un de ses navires. Alors, il y a des expériences, des références historiques très connues, en particulier le sabordage de la flotte française à Toulon au moment de l'occupation, etc. Bon, mais là, il s'agit d'un événement très, très rare, puisque vous le savez, peut-être, la marine brésilienne a décidé de saborder le porte-avions Sao Paulo. Dit porte-avions Sao Paulo, qui était donc l'ancien porte-avions français Foch, qui avait été racheté. C'est bon, voilà, on a notre correspondant, j'explique. Donc, qui avait été racheté par la marine brésilienne, qui s'en est servi pas tellement dans de grandes quantités, et puis qui a décidé de le mettre à la ferraille, puisque c'est comme ça que se terminent les grands bâtiments de guerre. Alors, pour parler de cet événement qui est quand même, et heureusement, on va le comprendre, assez rare, on a en ligne un correspondant qui est tout à fait compétent, que je vais saluer à l'antenne, qui est le porte-parole d'une association que vous avez peut-être entendu citer, qui s'appelle Robin des Bois. Donc on va avoir Jackie Bonnemain directement en ligne qui va nous parler de ce sabordage assez extraordinaire et des conséquences qu'il peut avoir du point de vue d'une part de la défense mais surtout du point de vue de l'environnement et de l'écologie marine. Voilà, je pense qu'on a, Roselyne me fait signe qu'on a Jackie Bonnemain en ligne.
Oui, bonjour.
Bonjour Jackie Bonnemain, merci d'être en ligne avec nous. Je crois que tu es, et tu vas me dire si je me trompe, un des fondateurs de l'association Robin des Bois.
Oui, c'est exact,
toujours en exercice, donc dont j'avais connaissance il y a fort longtemps. Et puis, donc, je t'ai demandé, et tu as accepté, et on t'en remercie, de nous expliquer cet événement quand même hors du commun, qui est le sabordage d'un porte-avions en pleine mer, qui a eu lieu il y a quelques semaines au large des côtes brésiliennes. Voilà, mais en quelques mots, peux-tu nous présenter quand même Robin des Bois, parce que ça fera plaisir aux auditeurs de faire connaissance avec cette association, s'ils ne la connaissent pas. À toi, Jackie.
Robin des Bois est une organisation de protection de l'environnement sous le statut d'association, qui est basée à Paris, même si il n'y a pas beaucoup de ses fondateurs et de ses salariés qui soient véritablement natifs de Paris. Oui. En fait, on est d'un peu partout, de Normandie, de Vendée, de Picardie. Et puis, le seul avantage qu'on ait d'être installé à Paris, c'est qu'on est un peu au centre géographique voilà. De la France et qu'on peut se projeter à droite et à gauche, au sud et au nord, très rapidement, y compris hors des frontières. On s'occupe de beaucoup de sujets, du trafic d'espèces menacées, de la gestion des déchets et de la sécurité maritime et des risques du transport maritime. Et c'est à ce titre qu'on s'est intéressé à la saga du Clémenceau, qui était le sister ship du Foch dans les années 2005, 2006, 2007.
Exact.
Et évidemment, le sort du Foch nous a aussi beaucoup intéressés depuis qu'il a bénéficié, si on peut dire, d'une licence d'exportation de la France vers le Brésil. Et là, au Brésil, en 2000, l'ex-Foch est devenu le prestigieux porte-avions Sao Paulo. Il a, comme vous l'avez dit, été exploité assez peu. D'abord parce que le Foch était en bout de course et que, d'une certaine manière, la France a pris le risque, sans doute dans l'espoir ensuite de vendre des avions de chasse, de céder pour un prix modique ce porte-avions Foch au Brésil. Ça remet un peu en cause le D'accord. système de revente des armes de seconde main. Mm-hmm. Et donc, il a eu pas mal d'incidents à Rio de Janeiro et au large, une chaudière qui a pris feu, des marins qui ont été brûlés, parfois mortellement. Bref, une expérience très, 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 très mitigée. Et en 2012, il a été le Sao Paulo définitivement retiré de la flotte brésilienne. Et il est resté pendant plusieurs années dans l'enclave militaire du port de Rio de Janeiro. Et en 2020, un contrat a été signé entre la marine brésilienne, entre l'État brésilien et un chantier en Turquie, agréé par l'Union européenne, mm-hmm. Qui n'était pas le pire chantier qu'on puisse imaginer pour démanteler ce navire. Donc le contrat a été signé en 2020 et en 2022, le Sao Paulo, en remorque bien sûr, parce qu'il n'avait pas de moyens de propulsion autonome, est parti vers Aliaga en Turquie. Mm-hmm. Un voyage de plusieurs milliers de kilomètres. Mm-hmm. Et des manifestations tardives, sans doute trop tardives, à Aliaga ont fait que des protestations de juristes ont fait que le convoi a été refoulé avant qu'il franchisse le détroit de Gibraltar, et que le convoi a fait demi-tour vers Rio de Janeiro. Il a fait demi-tour le 26 août 2022, il était parti le 4 août, et puis il est rentré au Brésil, et on pensait qu'il allait être accepté dans un port brésilien, oui. Mais patatras, l'ex-porte-avions était devenu entre-temps un véritable épouvantail, et même les Brésiliens n'en ont plus voulu. C'est-à-dire qu'il était banni en Turquie et qu'il était banni au Brésil, et qu'il est resté pendant 3 mois au large d'un port dans l'état du Pernambouc, mmh. au Brésil, à faire toujours tiré par un remorqueur, bien entendu, un remorqueur de pavillon hollandais, à faire des zigzags avec des protestations dans le port de Suape, qui pourtant aurait pu l'admettre parce qu'il dispose d'une cale sèche de 400 mètres de long, mais patatras, encore manifestations des uns, des autres, d'hommes politiques, d'écologistes. Donc le prestigieux Sao Paulo a été condamné à une errance en mer. Et à partir de ce moment-là, le gouvernement brésilien a commencé, à la marine brésilienne, oui. a commencé à dire que le bateau prenait l'eau, qu'il était détérioré, qu'il y avait un risque de naufrage imminent, et que par conséquent, la seule solution envisageable à ce stade était de le s'aborder. Alors, avant d'être une catastrophe environnementale, c'est un peu une catastrophe politique.
Politique et administrative, parce que, oui, tout à fait.
Et parce que il est vraiment dommage que la France, qui a construit le Foch, qui a vendu le Foch au Brésil, qui avait au moment de la licence d'exportation inclus une clause disant qu'au moment de la sortie de flotte, du démantèlement du navire, elle devait, la France, approuver la solution de démantèlement. Mmh. Eh bien, la France a effectivement, officiellement, autorisé l'ex-Foch à être démoli dans le chantier turc agréé par l'Union européenne. Mais à partir du 26 août, quand le convoi a été refoulé de Turquie, et jusqu'au 3 février, date à laquelle le Sao Paulo a été sabordé, la France s'est cantonnée dans un silence extrêmement s'est cantonné dans le silence, n'a absolument rien dit et n'a pas aidé le Brésil, n'a pas accompagné le Brésil pour essayer de trouver une solution. Rationnelle.
C'est la dure vie du marchand d'armes, c'est ça?
Oui,
on vend, on n'assume pas les suites, voilà, c'est ça. Je plaisante, voilà. C'est ça, oui, les suites, c'est pour les autres, oui, c'est ça.
Alors, donc, le navire, 265 mètres de long, 30 000 tonnes d'acier, quelques milliers de tonnes de déchets, a été sabordé dans la soirée du 3 février, en un point d'ailleurs qui n'a pas été communiqué. Il n'y a eu aucune photo de ce sabordage, ce qui montre que quand même la marine brésilienne avait honte. Oui. Il a été sabordé à 349 km environ des côtes brésiliennes pour, dit le communiqué officiel, préserver les intérêts environnementaux, économiques, opérationnels et logistiques de l'État brésilien. Alors 349 kilomètres, ça veut dire qu'il a été sabordé dans la zone économique exclusive brésilienne, dans des eaux sous juridiction brésilienne, et qu'il y a peu de possibilités pour que le Brésil puisse être sanctionné par une cour de justice quelconque, d'autant que la marine brésilienne a mis en avant ce cas de force majeure, comme quoi le navire prenait l'eau et qu'il risquait d'un instant à l'autre, non pas d'être victime d'un sabordage volontaire, mais d'un naufrage accidentel.
D'accord. Bon, on voit donc que l'opération tardivement a été très rapide et qu'on a fait l'impasse sur tous les dangers parce que ce soit ou non dans les eaux de la zone économique exclusive, de toute façon, il va ressortir des morceaux, il va y avoir des émanations.
Alors, il a été, selon nos observations, notre tracing, mais aussi selon le communiqué de la marine brésilienne, coulé par avec des explosifs, hein, environ 400 kilos d'explosifs, coulé par 5000 mètres de fond. Oui. Autant dire qu'il est irrécupérable et qu'une faune abyssale, tout à fait spécialisée, méconnue, extraordinaire, adaptée à des conditions particulièrement hostiles, a reçu, et une flore aussi, la flore et donc la faune ont reçu sur la tête, si je puis dire, cette bombe toxique. Et donc ça, c'est la première phase de la catastrophe, et avec un périmètre de quelques kilomètres carrés du plancher océanique par 5000 mètres de profondeur, complètement dégradé, perturbé, intoxiqué. Et la deuxième phase, ça va être la lente décomposition de tous les matériaux toxiques embarqués à bord et intégrés à la coque de ce navire. Je parlais de plusieurs kilomètres de tuyauterie calorifugée en amiante, de plusieurs kilomètres de tuyauterie de gaines électriques, de PCB, de plusieurs milliers de néons avec des starters en mercure, de plusieurs milliers, excusez hein, cet inventaire pas à la Prévert, des milliers de détecteurs de feu, de flammes avec des micro-sources radioactives, et surtout aussi évidemment avec des hectares de peintures toxiques à l'étain, au chrome, au plomb, au PCB aussi et à l'amiante.
Ah, tout y est.
Je dis bien peinture à l'amiante, et qui vont se décomposer sous forme d'écailles, sous forme de chips, et remonter petit à petit dans la colonne d'eau et se disperser dans un vaste périmètre, et éventuellement se rapprocher des côtes brésiliennes et contaminer les poissons qui sont pêchés par les artisans pêcheurs brésiliens et donc contaminés. Les consommateurs, quoi. C'est directement au fil des décennies, hein. Cette catastrophe, elle va durer, elle va s'étaler sur plusieurs décennies pour partir de 5000 mètres de fond et rejoindre en partie les assiettes des consommateurs brésiliens. Et aussi le bateau a été sabordé au milieu d'un périmètre de, enfin pas d'un périmètre, d'un couloir de migration de baleines à bosse qui vont elles aussi être impactées par ces résidus, ces résidus de peinture, ces flocons d'amiante et ces objets, ces débris divers. Sans parler, j'ai oublié dans l'inventaire, oui, de quelques 1, 2, 3 milliers de tonnes de boues d'hydrocarbures qui, évidemment, étaient dans les fonds du compartiment, des compartiments machines, et qui n'avaient pas été entièrement pompés, sachant que ça aurait dû être le chantier turc aurait été responsable du pompage des hydrocarbures. Voilà, brièvement énuméré. Les conditions et les conséquences de ce sabordage qui est un véritable retour en arrière, oui, parce que les porte-avions sont désormais démantelés dans des chantiers agréés aux États-Unis. Ils auraient pu l'envoyer aux États-Unis s'il y avait eu une véritable coopération entre les gouvernements et les marines ou traités en Turquie. Mais de toute façon, le Brésil n'a aucune culture de la démolition des navires. Dès qu'ils ont un pétrolier en fin de vie, ils en ont envoyé 20. En 5 ans, ils en ont envoyé 20 se démolir en Inde, au Bangladesh. Donc, ils n'ont absolument aucune culture de la démolition des navires. Et on a pressenti finalement assez vite chez Robin des Bois, étant donné qu'on travaille sur ce sujet et qu'on publie tous les 3 mois un bulletin trimestriel sur la démolition des navires dans le monde entier depuis une quinzaine d'années. Oui. On a suite senti que c'était un coup foireux et que ce porte-avions construit à Saint-Nazaire allait finir immergé au large du Brésil. Voilà.
Joli cadeau de la France, oui. Dernière question, Jackie. Est-ce que, bon, c'est dans la zone économique exclusive du Brésil, est-ce que par contre on trouverait dans la convention de Montego Bay une astuce pour attaquer le Brésil pour non-respect de sa propre zone économique exclusive ou pas ?
Eh bien non, ça va être difficile. Le droit de la mer et aussi la convention de Londres sur le rejet des déchets dans l'océan mondial interdit ce genre de pratique, voilà, que ce soit dans la zone économique exclusive des pays ou au-delà, sauf cas de force majeure. C'est-à-dire que à partir du moment où l'État estime qu'il y a un risque de naufrage imminent, il peut prendre la décision de saborder le navire. Le problème, c'est qu'il n'y a jamais eu d'expertise indépendante faite par un organisme tiers sur la réalité de cette entrée d'eau à l'intérieur de l'ex-Foch. Et que donc, on ne sait pas si c'est un prétexte ou si c'est vraiment pour répondre à un risque imminent que le navire a été coulé. Mais en plus, à partir du moment où une entrée d'eau légère, de toute façon, était suspectée à l'intérieur du navire, ils auraient dû le rentrer dans le port de Suape, le mettre en cale sèche, réparer et le remettre en attente dans un quai en attendant la signature d'un nouveau contrat avec un chantier agréé pour la démolition de ce type de navire.
Beaucoup, beaucoup de négligence et de laisser aller. Oui.
Absolument. De la part du vendeur, de la part de l'acquéreur et de la part de la communauté internationale qui n'a pas aidé le Brésil à trouver ou convaincu le Brésil de trouver une solution rationnelle.
La pression était nulle. Enfin, on imagine un engin pareil qui traverse l'Atlantique derrière un remorqueur, aller-retour pendant des semaines et personne ne voit. Enfin, si c'est absolument...
Les satellites, oui.
Ah non, mais c'est incroyable, c'est une première. Hein.
Ah oui,
on a assisté à pas mal de sagas comme ça, mais d'abord le Clémenceau,
oui,
il était parti de Toulon pour la Turquie, il a été refusé en Turquie, après il est allé à Alang en Inde via le canal de Suez, après il s'est fait refuser par l'Inde, il est revenu en passant par l'Afrique du Sud, il est remonté à Brest. Mais la Marine nationale française, disons-le, c'était en 2005-2006, a été quand même beaucoup plus intelligente et méritoire que la Marine nationale brésilienne, hein, puisqu'ils ont trouvé une solution, les Français, pour que le Clémenceau soit détruit à peu près rationnellement au Royaume-Uni.
Tout à fait.
Bon.
Écoute,
voilà.
Jackie, grand merci. On se tiendra au courant de l'évolution de la situation. S'il y a évolution, mais en fait, effectivement, il va y avoir des systèmes. Il faut tracer toutes les pollutions jusqu'où elles
vont. Exactement, exactement. On peut avoir un boomerang.
Ouais.
Ils peuvent avoir un effet boomerang si... et ça serait la seule solution pour qu'une un tribunal lance un procès, une enquête et qu'il y ait une sanction. Il faudrait que, par exemple, sur les côtes brésiliennes ou ailleurs, finalement, un État voisin du Brésil, un grand nombre de déchets dont on puisse certifier qu'ils viennent de l'ex-Foch, atterrissent sur le littoral, contaminent des tortues, des baleines, ou qu'il y ait une grosse mortalité de poissons, avec une signature Foch, hein, c'est ça problème.
Sûr.
Et à partir de ce moment-là, une instruction judiciaire pourrait être lancée par le pays victime de cette pollution.
Bon. Espérons que ça avancera dans ce sens. Grand merci, merci Jackie, grand merci à Robin Desbois pour
et merci à vous et merci à vous de vous intéresser à ce sujet et d'avoir sollicité Robin Desbois.
C'est trop facile de fabriquer des arbres et puis après de dire à la fin on ne sait pas ce que ça devient et ça ne nous intéresse pas. C'est une irresponsabilité.
Ah bah oui, mais ça vous savez c'est un drame. Le marché de seconde main ou de troisième main des véhicules militaires, que ce soit des avions, des tanks ou des porte-avions ou des sous-marins, c'est un marché à risque, vraiment.
Dangereux. Bon,
voilà.
Bravo pour le travail que vous faites pour suivre ces dangers et ces risques-là. Merci.
Voilà, je vous remercie. Au revoir.
Merci, bravo, Jackie. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir. Voilà. Donc, on a entendu, c'était important qu'on passe un certain temps là-dessus pour bien comprendre que ce commerce mondial des armes qui s'amplifie, on n'arrête pas de le dire à cette émission, qui a beaucoup monté depuis 10 ans maintenant, débouche nécessairement à un moment donné sur des questions de matériel de seconde main, matériel un peu abîmé, etc. Et alors, il se passe là toute une espèce de trafic dans une pénombre louche, parce que dans tous ces produits-là, très, très élaborés du point de vue industriel, que ce soit des avions, que ce soit des porte-avions, des sous-marins et tout, on ne fait pas, au moment de la construction de ces matériels militaires, on ne regarde pas le problème environnemental. On ne veut pas le savoir. Il s'agit de tuer. Hein, il s'agit de rien d'autre. Et c'est après qu'on se dit, ah oui, mais vous savez, c'était plein de produits très, très dangereux. Voilà. C'est plein de produits très, très dangereux. On va tuer des hommes, des poissons, des tas de choses. Mais ça, on ne veut pas le savoir. C'est beaucoup plus tard. Et c'est intéressant sur ce cas de mener une réflexion. Et de mener une réflexion aussi, je le dis quand même, sur le Brésil, parce que ce Brésil, ce pays, cette espèce de géant qui naît progressivement, qui monte, qui grossit, est un géant qui a des rapports compliqués avec l'environnement. Je ne veux pas insister sur le cas de l'Amazon ou autre. Je ne veux pas insister non plus sur le fait que quand on a des dirigeants comme Bolsonaro, qui était au pouvoir au moment où finalement l'amirauté a décidé de laisser couler, hein, ça a pu jouer... Alors, il n'y a pas, dans la classe politique brésilienne, on n'a rien dit, puis ça gêne peut-être un peu Lula maintenant d'aller mettre son nez là-dedans. C'est fait, c'est trop tard et tout. Alors, j'insiste bien, ça s'est passé sous Lula, mais le coup avait été monté bien avant. Hein. Et j'insiste sur le fait qu'au Brésil, d'une façon générale, les rapports qu'on a avec l'environnement sont quand même un peu ténus, hein, même s'il y a, comme ailleurs, des mouvements de défense de l'environnement et de la nature. Et ça mérite, parce que je rappelle que l'Amazone est un des poumons de l'oxygène du monde entier. Bon. On arrête là-dessus, on y reviendra peut-être s'il y a des développements intéressants.
Bernard ?
Oui ?
Oui, je me demande juste ce que fait Greta Thunberg par rapport à ça.
Ah ben, on lui a dit de ne pas s'en occuper, c'est tout. Oui, oui, non, mais tu fais bien de le dire. C'est pas son rôle. C'est pas son rôle. C'est Greta Thunberg, c'est une espèce de petit Zelensky adolescent à qui on dit tu vas dire ça, puis tu vas dire ci, tu vas faire ça, voilà. Donc, ça ne va pas plus loin. Là, avec Robin Desbois, que je salue, on a fait un travail de responsable militant qui se préoccupe de la santé des mers, sachant que dans la santé des mers, il y a aussi une partie de la santé des populations humaines qui vivent autour. Bon, ça, c'est le point de fond. Voilà ce que je voulais dire là-dessus. Je voulais dire un mot sur les actions pour la retraite, parce qu'on parle beaucoup de que font les retraités quand ils sont retraités. Alors, je vais vous expliquer. L'équipe de Comaguerre que vous entendez sur cette onde, que ce soit du côté de la technique avec Roselyne, du côté du studio avec Habib et moi, nous sommes retraités ou à l'âge de la retraite. Et en fait, ça nous permet, en fait, cette retraite, dès l'instant où on fait attention à notre santé, de faire participer la radio, de faire profiter la radio et ses auditeurs du travail régulier que nous faisons pour vous assurer des émissions. Et il faut savoir que Radio Galère, il y a des bénévoles de tous âges, mais il y a aussi des bénévoles retraités, et que ça fait partie de l'apport des retraités à la politisation ou à l'éducation populaire du pays. Très modestement, on ne fait pas de grandes choses, mais ça fait partie aussi de notre temps et de notre vie de retraités. Les retraités, quand ils le peuvent, parce que s'ils sont en bonne forme, ils rendent beaucoup, beaucoup de services à l'éducation populaire nationale. Bon. Alors, il y en a. Alors, le problème qui est posé par cette loi sur les retraites, c'est que avec l'âge à 64 ans, ceux qui auront fait les travaux les plus pénibles, on le sait, ça a été bien indiqué dans la prestation à l'Assemblée nationale de Mme Kéké, ceux-là seront morts tout de suite après l'âge. Hein. Bon. Et c'est, là-dessus, c'est un des motifs du refus de cette loi. C'est-à-dire qu'elle est parfaitement inégalitaire entre quelqu'un qui a fait des études supérieures et qui a des espérances de vie à 64 de... Bon, 15 ans, et celui qui sait que dans 6 mois, ou qui sait ou qui ne sait pas, mais qui de toute façon 6 mois après sera mort. C'est une inégalité monstrueuse, c'est-à-dire qui répercute sur l'âge de la retraite l'inégalité qui a sévi pendant tout le temps de la vie active. Voilà. Bon, on y reviendra sans doute, l'affaire n'est pas finie. Alors, on va dire un certain nombre d'autres choses. C'est pas une petite nouvelle d'Afrique qui n'est pas très, très grosse, mais qui est en même temps très, très intéressante. On a eu une rencontre qui a concerné 3 pays de la bande sahélienne, en gros, la Guinée, le Mali et le Burkina Faso. Bon, ça veut dire qu'ils pensent que maintenant, ces 3 gouvernements ont des intérêts communs et une approche et une lecture commune de la situation politique et diplomatique de cette zone-là. Et qu'est-ce qu'ils ont fait à l'issue de cette réunion ? Ils ont dit qu'ils ne se reconnaissaient pas dans les prises de position, ou plutôt dans l'absence de prise de position sur les questions fondamentales de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, dont ils sont jusqu'à présent tous membres. Ils se sont dit, on ne voit pas trop à quoi ça sert, on voit surtout qu'elle ne fait rien, sur rien, sur tous les sujets qui nous préoccupent, le terrorisme, le développement économique, cette structure ne sert à rien. Alors, c'est pas vrai qu'elle sert à rien, elle sert en fait à défendre les positions coloniales de la France-Afrique à travers ses porte-parole les plus éminents, je veux parler en particulier de M. Alassane Ouattara. Donc, c'est très très bien, cette CEDEAO est mise en cause par 3 États qui se serrent les coudes, qui commencent à avoir une lecture collective de ce que c'est que la France-Afrique, qui le disent et qui mènent une politique adaptée à leur analyse. On est dans une phase de transformation des rapports entre cette zone-là d'Afrique et la République française, on l'avait compris. J'ai rien à dire sur le Pérou parce que j'ai cherché des nouvelles. Alors c'est étonnant comment va l'actualité du monde. Le Pérou est depuis maintenant une grosse semaine dans l'état de siège et pratiquement il ne sort plus rien comme information. C'est ça le bénéfice de l'état de siège, c'est-à-dire c'est l'état de guerre pratiquement. L'armée a tous les pouvoirs, elle peut tuer ici et là, elle tue. Alors je faisais quand même les quelques dépêches sur lesquelles j'ai pu mettre la main font état de liquidation par la police qui a le droit de tirer à vue et de tuer, de plusieurs personnes par jour. Enfin, aujourd'hui, je vais tenter la comparaison, même si elle vous paraîtra audacieuse. L'armée péruvienne et la police péruvienne se comportent par rapport à la population de base du Pérou comme la police et l'armée israélienne en Palestine. Exactement. Vous n'êtes pas d'accord, on tire. C'est tout. Ouais, ça, c'est comme ça. Donc, on ne sait pas ce que ça va donner. Je note simplement, parce que ça s'est lancé depuis quelques jours, que la Confédération générale des travailleurs du Pérou, donc la grande confédération syndicale, a lancé un mot d'ordre de grève générale. Il n'y a plus d'informations pour savoir si c'est suivi, quel effet ça fait et tout, mais on est à un état de tension extrêmement élevé dont, je pense, on pourra vous donner plus de détails. Et puisqu'on est à parler de tensions, on n'a que l'embarras du choix, mais je voulais qu'on parle de la situation en Syrie et en Turquie. Alors pourquoi en Syrie et en Turquie ? Parce qu'effectivement, le tremblement de terre a eu lieu à la fois, principalement les effets sont en Turquie et un peu moindre en Syrie, mais il a eu lieu et au fil des jours, on s'est aperçu qu'il était beaucoup plus grave que ce qu'on avait pu imaginer le premier jour. Alors je rappelle, quitte à m'en excuser, que mardi dernier, on avait des nouvelles et quelques chiffres sur les morts, tels qu'ils étaient sortis au plus tard le mardi midi, c'est-à-dire à peine 24 heures après la première secousse. Et donc, ces chiffres étaient de l'ordre de quelques centaines. Aujourd'hui, on est dans l'ordre de quelques dizaines de milliers, c'est-à-dire des chiffres qui ont été multipliés par 100.
On est à 33 000.
Voilà. Hein, voilà. Donc, on a changé complètement d'échelle. Et donc, rétrospectivement, je me suis dit, ben, on a dit qu'il n'y avait que quelques centaines de morts qui en faisaient un séisme de petite taille. Là, on est complètement sorti de cette échelle-là. C'est un séisme de très grande taille, puisque le lendemain, le jour même, au moment même où on faisait l'émission où on parlait de ce séisme, il y avait une deuxième secousse quasiment aussi forte que la première du lundi, hein, de 7,5 sur l'échelle de Richter. Donc effectivement, vous imaginez qu'un immeuble qui a été secoué une première fois le lundi, quand ça recommence le lendemain avec la même intensité, les fissures sont là, les lézardes sont là et l'immeuble s'écroule. Bon. Donc les pertes sont énormes, on est à un des plus grands séismes, une des plus grandes catastrophes naturelles de ce fait d'un tremblement de terre. On en est là aujourd'hui. Donc, par rapport à ça, effectivement, il y a une solidarité internationale qui s'exerce ou qui essaie de s'exercer. Et c'est là-dessus que je voudrais donner un peu plus de détails. Parce que, première chose, et ça apparaît vrai au niveau des chiffres, il y a plus de victimes, à la fois blessés et morts en Turquie, qu'en Syrie.
Encore il y a 20 millions d'habitants en Syrie,
voilà. alors qu'il y en a 60 millions. Voilà, exactement. Voilà. Donc déjà, la population est plus petite. En même temps, il faut savoir que le gouvernement de Damas a des zones de son pays où il ne met pas les pieds. C'est-à-dire que s'il y a eu des morts dans certains secteurs, le gouvernement de Damas ne le sait pas. Il n'occulte rien. Il n'a pas de fonctionnaires sur place.
Sur le nord.
Voilà, sur le nord, à la limite de la frontière turque, justement, ou en allant plus à l'est vers l'Irak. Donc le gouvernement de Damas ne ment pas, il sait ce qu'il... Enfin, il voit des choses, il le dit, il compte, mais effectivement, il y a des endroits où il ne voit rien puisqu'il n'y a pas accès. Ça, c'est une première donnée. C'est la limite de l'information. La deuxième limite de l'information sur l'arrivée des secours, c'est que les secours ont tendance à arriver au pays où il n'y a pas d'embargo, il n'y a pas d'interdit d'envoyer du matériel. Ça veut dire en Turquie. On peut dire, bah, c'est juste à côté, c'est pas grave. Hein, si l'avion qui apporte du matériel arrive en Turquie, tout près de la frontière, on l'amène en Syrie. Oui, mais ce qu'on ne vous explique pas, c'est que le passage, précisément, entre la Turquie et la Syrie, c'est un passage qui est occupé par des djihadistes. Hein. Et donc, aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'un convoi qui amènerait du matériel humanitaire qui viendrait de Turquie, enfin, qui par la Turquie, envoyé par n'importe quel pays ou n'importe quelle ONG, arriverait dans une zone où, si bien, il serait volé, piraté par les djihadistes.
C'est
un endroit où l'armée syrienne n'est pas. Elle est autour. Elle va essayer de limiter, d'en finir avec cette enclave terroriste. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, le seul passage frontalier entre la Turquie et ce qui est officiellement le territoire syrien, il est en zone occupée par les djihadistes.
Bab el-Hawa.
Voilà, il y a un passage. Alors, on a claironné hier, ou je crois ce matin, disant, ça y est, il y a deux autres passages d'ouverts. Ben, tant mieux, en espérant que ces deux autres passages, ils sont ouverts à un endroit où c'est l'armée syrienne et le gouvernement de Damas qui peut contrôler ce qui arrive. Hein. Mais qu'on ne nous fasse pas croire qu'effectivement, Damas ne fait rien. Damas ne fait rien. Il ne peut pas intervenir à l'endroit où le pouvoir est aux djihadistes. Et il faut savoir que ces djihadistes, ils reçoivent leur matériel, ils reçoivent des soins, des médicaments, depuis la Turquie, depuis 10 ans. Donc les flux sont bien organisés. Et là, ils peuvent très bien dire, mais tout ce qui arrive pour l'aide humanitaire, c'est pour nous. On s'en sert pour nous, ou on va le revendre au marché noir. Enfin, tout est possible. On est dans une zone où il n'y a pas de droit. Hein. On est dans un état complètement sauvage.
Et elle a de la peine à... Oui. À faire face à cette catastrophe humanitaire, bien. Parce qu'il y a eu 12 ans alors, de guerre.
Voilà. Et en plus, donc, il y a des difficultés pour envoyer du matériel officiellement en Syrie, puisqu'il y a un embargo, ouais. Et que donc la question se pose de pouvoir envoyer du matériel en Syrie, parce qu'on ne sait pas si ce... Enfin, il ne sera pas autorisé. Alors, on a un seul cas sur lequel je m'arrête, c'est que le gouvernement italien a décidé d'envoyer en son nom du matériel humanitaire. Mais...
À Beyrouth.
Il a été tellement prudent parce que par rapport à cette question d'embargo qu'il l'a envoyé à Beyrouth, au Liban. Le Liban n'est pas sous embargo. Et donc, de Beyrouth, le matériel va prendre la route et aller en Syrie. Ça va se passer. Mais aussi bien, si le gouvernement italien avait envoyé un avion à Damas ou à Homs ou à Latakia, aussi bien le gouvernement italien aurait eu des ennuis avec les États-Unis en disant « Vous violez la loi César ». Vous voyez ce que, donc c'est très très compliqué et chaque opération humanitaire ne peut se faire que de la part d'un gouvernement qui n'a pas peur des États-Unis. Alors qui envoie dans ce cas-là, qui n'a pas peur des États-Unis, ben, on les connaît, hein, on les connaît, on en parle tout le temps. Il y a la Russie, il y a l'Iran, il y a même les Émirats arabes unis, je le souligne, c'est très bien.
Ouais,
le Pakistan, l'Égypte. Voilà, l'Algérie. Voilà. Ouais, eux prennent le risque en disant de toute façon l'embargo, on ne le respecte pas, on ne l'accepte pas dans son principe.
Même la Libye. Attention.
Même la Libye. Voilà. Ouais. Bon. Donc voilà ce qu'il faut clarifier pour bien expliquer ce que c'est que le problème de l'aide humanitaire aujourd'hui en Syrie. Bon, ça va se débloquer, mais il y a aussi des assauts d'hypocrisie. Je voilà. note que, par exemple, le gouvernement des États-Unis, je pense que c'est une décision qui a été prise par la Maison-Blanche ou par le département d'État, a levé pour raison humanitaire un peu l'embargo. Alors je vais faire juste un commentaire que j'emprunte à monsieur l'ancien ambassadeur de Grande-Bretagne à Damas, qui s'appelle monsieur Ford, et qui a dit « ça touche 1% des activités possibles d'aide ». Donc c'est une fumisterie. Voilà. C'est une hypocrisie totale, c'est-à-dire que vis-à-vis de l'opinion, on va afficher qu'il y a eu un léger allègement des sanctions de la loi César, et en fait ça ne sert à rien, ça ne sert qu'à un affichage médiatique.
Et en plus de ça, ils disent qu'il y a une dérogation qui a été faite, vous venez voilà. de parler, et ça ne durera que 6 mois.
Oui, oui, après c'est fini, oui. Non,
6 mois. Et qui autorise l'acheminement de tous les matériels ou les dons dans toutes les régions de la Syrie, sans passer par le gouvernement syrien.
Voilà, oui, en plus. Alors, voilà. ça va jusqu'au bout de l'hypocrisie, c'est-à-dire qu'aussi bien les groupes djihadistes ou les troupes des États-Unis qui sont encore sur le sol de la République arabe syrienne vont recevoir du matériel dont ils vont profiter pour eux, dont ils vont faire profiter leurs alliés sur place. Hein, je pense à des forces indépendantes syriennes. Hein, et donc, le gouvernement pourra, de l'extérieur, très facilement dire « Regardez, ils n'ont pas fait grand-chose ». Ils n'ont pas fait grand-chose parce qu'on ne leur laisse pas faire ce qui serait leur métier. C'est-à-dire le travail d'un gouvernement, c'est de gouverner. Hein, ce n'est pas d'essayer de tricher, enfin de s'affronter avec la plus grande puissance mondiale. Donc on reviendra là-dessus. Et je voulais en plus donc parler du reste possible de l'aide humanitaire. Aujourd'hui, au niveau français, puisqu'on est là, on va dire que ce qui reste possible pratiquement aujourd'hui, c'est des dons en argent. C'est des dons en argent... en attendant que des circuits plus rodés, plus sûrs, pour acheminer du matériel nécessaire, à la fois pour les soins maintenant et pour la reconstruction après, qui sera un chantier considérable. Donc il reste la possibilité des dons en argent. C'est là-dessus que nous concentrons nos efforts. Ah. Et donc, Habib va vous en parler plus savamment.
Vas-y, bon, ben, actuellement, bon, nous avons, dès qu'on a su qu'il y a eu un tremblement de terre en Syrie, et qu'on n'en parle que de la Turquie. Mais bien sûr, la Turquie nous intéresse sur le plan humanitaire, aussi bien que la Syrie. Et là, le média, surtout occidental et européen, n'en parle guère très peu de la Syrie. Et alors, on a essayé, donc, nous, de notre côté, avec l'aide du fonctionnaire d'État syrien à Paris, on a essayé donc de collecter des dons. Bien sûr, il y a énormément de personnes qui voulaient donner des dons sous forme matérielle. Et pour l'instant, le côté matériel, vous savez, d'abord, il faut trouver un conteneur. Il faut d'abord le remplir, d'une part. D'autre part, il faut l'acheminer par voie maritime, ce qui est très long. Et quand elle arrive, malheureusement, en Syrie, ça restera pendant peut-être 15, 20 jours, un mois pour essayer de la délivrer à la population. Alors, ce matériel qui se trouve dans les conteneurs, il est complètement dégradé, quoi, qu'il ne vaut plus rien. Bon, on a essayé donc de collecter des dons. Et ça a très bien marché. Je remercie tout le monde de tout mon cœur. Et vraiment, j'ai peine à le... Alors, je remercie tout le monde de tout mon cœur, des dons, et il y a énormément de dons, surtout du côté marseillais. Ça, c'est formidable. J'ai dû collecter pas mal, et je les remercie. Voilà, je les remercie infiniment.
Alors, je profite pour parler de la représentation diplomatique de la République arabe syrienne à Paris. Ouais. Vous savez que les relations diplomatiques entre la France et la Syrie sont suspendues, et donc il n'y a pas d'ambassadeur de Syrie en poste à Paris, pas plus qu'il n'y a d'ambassadeur de France en poste à Damas. Ouais. À ce propos, d'ailleurs, l'équipe Macron a essayé une manipulation, il y a de ça 2-3 ans, en nommant une ambassadrice, puisque c'était une dame, pour la Syrie. Ce qui s'est jamais vu, on n'a jamais... Alors, parce que cette dame était basée à Malte et elle était ambassadrice pour la Syrie. Alors, la Syrie a refusé en disant « un ambassadeur, ça vient chez nous ». Et puis, c'est réciproque. Chacun, on échange des ambassadeurs. Et donc, cette espèce de pas de clair, de faux fuyant de la République macronienne a été à l'image de tout le reste. Et on fait croire que, et en fait, il n'y a pas d'ambassadeur de France à Damas et il n'y a pas d'ambassadeur de Syrie à Paris. Il y a un chargé d'affaires, c'est-à-dire il y a... Pignon sur rue, on peut passer un coup de téléphone à quelqu'un qui est un fonctionnaire de la République arabe syrienne et qui peut pouvoir téléphoner à Damas pour donner des nouvelles.
Exactement. Voilà.
Et c'est la République arabe syrienne qui se préoccupe quand même de savoir si les dons qui sont récoltés ici par l'Association franco-syrienne de solidarité arrivent bien au bon endroit. Parce que vous savez que dans les circuits bancaires, on peut aussi avoir des fuites. Hein. Donc il y a tout ça qu'il faut surveiller. Et il y a aussi la frilosité qu'il faut regarder des banques en disant « Ah oui, mais attendez, ce pays est sous embargo, on va se fâcher avec les États-Unis, on a peur, etc. » On a des relations qui ressemblent, alors qu'on ne dit très très peu, aux relations compliquées que Cuba a avec le reste du monde pour les mêmes raisons. C'est-à-dire l'embargo décrété par les États-Unis et amplifié ou reproduit à l'identique par l'Union européenne fait que beaucoup d'interventions deviennent compliquées. Il faut passer par des circuits lourds. Tout est beaucoup plus difficile dès l'instant où on a le cou étranglé par Sa Majesté américaine. C'est ça que ça veut dire. Bien. Alors, puisqu'on parle d'étranglement, je vais vous parler d'un petit pays dont on parle peu, mais qui est tout près du champ de bataille, qui s'appelle la Moldavie. La Moldavie, c'est un petit pays qui ressemble beaucoup à la Roumanie, parce qu'on y parle une langue qui ressemble beaucoup au roumain, donc c'est juste à l'est de la Roumanie. C'est petit, puisqu'il y a 2,5 millions d'habitants à peu près. Ça faisait partie de l'URSS à l'époque, c'était une république socialiste soviétique. Depuis, c'est indépendant, depuis 1991, et ça a oscillé depuis 1991 entre des régimes encore assez pro-russes, et puis ces dernières années, il est arrivé un courant plus pro-européen qui a pris la majorité à l'Assemblée nationale, mais assez faiblement, avec une population qui reste, elle, assez attachée à son passé soviétique et à ce qu'il lui a apporté beaucoup. La Moldavie, qu'est-ce que c'était dans l'espace soviétique ? C'était le potager, j'allais dire, pour faire simple. Donc, c'est une terre, ou plutôt un pays d'un climat qui est assez proche du climat méditerranéen, tout proche de la mer Noire. Et en fait, c'était un endroit de l'URSS où, à la différence de la Sibérie, on pouvait cultiver des tomates, des aubergines, etc. Et il y avait des vergers fruitiers, etc. C'était plus ça, la Moldavie. Un endroit bien, bien agréable à vivre, même si, du point de vue des Ukrainiens qui étaient plus développés, qui étaient regardés ça, c'était, j'allais dire, le paysan de l'ensemble. Hein. Bon, prenons-les comme ça. Donc ces Moldaves sont là, ils sont donc d'un côté à l'est, ils ont l'Ukraine, et de l'autre côté, la Roumanie. Donc ils ont à gauche, côté ouest, ils ont l'OTAN, hein, soyons bien clairs, et de l'autre côté, l'Ukraine, dans l'état où elle est aujourd'hui. Qu'est-ce que ça produit ? Ça produit une espèce d'état de troubles, puisque, en fait, il faut savoir que, d'abord, une partie des réfugiés ukrainiens, de ceux qui ont fui l'Ukraine après le mois de février 2022, vous savez que beaucoup d'Ukrainiens sont partis avant, en gros 15 millions d'Ukrainiens, j'insiste toujours sur le chiffre, ont quitté l'Ukraine bien avant l'intervention russe, hein, d'entre 91 et 2021, c'est 15 millions, donc plus d'un tiers de la population. Bon. Mais au moment où ont débuté donc, les combats sur le sol ukrainien, beaucoup de gens, surtout ceux qui habitaient dans le sud de l'Ukraine, autour d'Odessa, par là, sont partis par la Moldavie. Et passant par la Moldavie, ils sont arrêtés, on les a accueillis comme on a pu, et puis passant en Roumanie, ce qui est assez facile, puisque les relations entre les deux pays sont bonnes, hein, on se retrouvait dans l'Union européenne, et donc on avait complètement changé de monde. Bon. Ça a été la première étape. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'une partie des forces de l'OTAN qui aident le régime ukrainien à mener sa guerre sont basés en Roumanie. En particulier, les contingents de l'armée française qui interviennent sur le sol ukrainien ou qui interviennent pour aider l'armée ukrainienne sont basés en Roumanie. Et il faut savoir, en particulier, que les fameux chars d'assaut que la France va livrer ou s'est engagé à livrer à l'Ukraine, ne vont pas être parachutés par des avions gros porteurs. Ils vont arriver depuis la Roumanie, à travers la Moldavie, par la route, tout bêtement. Parce que là, c'est très, très facile. Alors, comment ils sont arrivés en Roumanie ? Ben, je pense, soit sur un bateau civil qui a été loué pour ça, soit peut-être par chemin de fer. Mais enfin, alors là, on est dans l'intérieur de l'Union européenne, on s'organise, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce qui s'est passé ? Donc, on sent que la Moldavie est un endroit un peu stratégique. Elle est toute petite, elle n'est pas très, très riche. Elle était encore bien intégrée au réseau d'électricité, de pétrole, de gaz soviétique. Et donc là, elle souffre, puisque les livraisons de gaz ont diminué. Et ce qui se passe, c'est que la population est inquiète. C'est-à-dire, elle était relativement tranquille, elle est inquiète maintenant. Et la première ministre, donc, qui avait été mise en place par cette nouvelle alliance électorale plutôt pro-européenne, a trouvé que la situation devenait explosive et incontrôlable. Et elle a démissionné brutalement vendredi dernier, au matin. Alors elle n'a pas changé, elle dit qu'elle est toujours pro-européenne, mais elle sentait vraiment que la marmite commençait à bouillir dans tous les sens et qu'elle ne maîtrisait plus rien. On l'a remplacé 48 heures plus tard par un nouveau Premier ministre, alors qu'il doit être passé par la procédure normale pour être validé en tant que Premier ministre, qui était en fait son conseiller pour la défense et qui a cette particularité qu'il est un spécialiste des réseaux informatiques, des cyberguerres en particulier, et qu'il a été formé à ses activités par une université américaine. Les mauvaises langues en tirent quelques conclusions sur ce personnage qui s'appelle, vous entendrez probablement son nom, qui s'appelle Darin Recheanu. Et donc la Moldavie est un peu travaillée au corps par le camp occidental. Alors vous savez qu'on a annoncé d'ailleurs depuis l'année dernière que la Moldavie avait déposé sa candidature pour rentrer dans l'Union européenne, que donc dans la foulée l'OTAN envisageait de la faire rentrer. Alors quelle a été la riposte militaire à cette secousse politique ? Donc la première ministre s'en va en disant je suis débordé, ça va mal se terminer, je ne me sens pas de taille à affronter. On met à la place, j'allais dire, l'American Service. J'assume le propos. Et la Russie fait quoi ? Ben c'est tout simple. Vendredi matin, un missile russe a détruit le pont de Zatoka, qui est le seul pont qui permet à des chars français ou autres, ou otaniens, d'aller de Roumanie en Ukraine.
Bon, alors c'est un très très beau pont sur la rive, c'est l'embouchure du Dniestr, un fleuve qui coule à travers la Moldavie. Donc l'armée russe a dit, bon, on a compris ce que ça voulait dire, le changement de gouvernement, c'est-à-dire que le champ de bataille va s'élargir à la Moldavie. Bon, et ben nous, on empêche les trafics entre la Moldavie et l'Ukraine. Toujours ça de prix. Bon, voilà. Le message est passé, il n'y a pas eu de commentaire. Mais effectivement, les officiers de l'armée française, les spécialistes de logistique qui devaient dire « Ah ben, les AMX vont passer par le pont de Zatoka », il n'y a plus de pont de Zatoka. Ça a été fait par un drone, très très bien fait, pas de souci, voilà. Il n'y a plus de pont. Alors, on a comme ça des petits à côté, en fait, des petits troubles de la guerre, mais ça montre aussi que dans cette guerre et dans le découpage territorial qui va s'en suivre, car plus personne n'a de doute sur le fait, je rappelle que même Kissinger l'a dit à Davos au mois de mai, il y aura un partage du territoire parce qu'on ne s'en sortira pas autrement. Mmh. Et dans ce partage du territoire, une des étapes très très importantes est la prise d'Odessa et de la région côtière du sud de l'Ukraine, qui fait qu'il y aurait une solution, pas de solution de continuité, entre la zone du Donbass et la Moldavie. C'est-à-dire que la Moldavie se retrouverait pratiquement accolée au territoire russe. Et ça donnerait lieu à la clarification d'un problème qui existe depuis que la Moldavie existe, c'est-à-dire depuis 1991, c'est qu'il y a à l'intérieur de la Moldavie une petite bande de terre sur la rive donc gauche du fleuve Dniestr dont j'ai parlé, qui est occupée par l'armée russe. Vous avez donc... Alors, on parle d'un groupe de Cosaques, hein, mais en fait, vous avez une partie de l'armée russe qui se trouve en fait sur le territoire moldave. Et ça n'a pas bougé depuis 1987. Alors, vous voyez que le jour où l'armée russe, celle qui arrivera, donc partant de Kherson ou dans ces coins comme ça, arrivera à cet endroit-là, il y aura jonction entre deux armées russes, celle qui est déjà en Moldavie et celle qui y arrive. Et donc ça, c'est la situation nouvelle qui va être créée. Donc au passage, Odessa redeviendra russe, ce qu'elle aurait jamais dû cesser d'être. Ça, c'est un autre point de vue qui n'engage que moi. Et ça m'amène... Voilà, il nous reste 5 minutes. Alors je vais finir sur ce sujet-là. Sur ce sujet-là, parce qu'il se passe, à propos de cette guerre d'Ukraine, une évolution tout à fait exceptionnelle que je vais essayer de faire comprendre. À divers propos à la fois du président de la République polonaise, M. Duda, à divers propos de son Premier ministre, alors à diverses occasions, je veux dire, il y a des réunions au sujet de la situation en Ukraine, il y en a sous toutes les formes possibles, tout le temps maintenant, que ce soit à Ramstein, en Allemagne, au quartier général de l'OTAN, que ce soit à l'OSCE, enfin, il y a toutes les semaines, il y a pratiquement des occasions de faire le point sur la situation du conflit en Ukraine. Et le discours qui est tenu à la fois par le président de la République et par son Premier ministre, est tout à fait homogène, c'est le même discours, et il est très clair. Ça consiste à dire, au moment où l'Ukraine va être découpée en petits morceaux, il y a un gros morceau qui nous revient. C'est ça qu'il faut, hein, c'est ça, c'est rien d'autre. Et ils le font pourquoi ? Et pourquoi, j'allais dire, ils ont l'audace de le dire ? Tout simplement parce qu'ils y sont poussés par les États-Unis, qui dit... Je vous aiderai, c'est ma politique. L'Ukraine va servir de point d'appui de l'OTAN contre la Russie, puisque avec l'Ukraine, la Pologne va servir plutôt de point d'appui, puisqu'avec l'Ukraine, il n'y a plus aucun espoir que ça marche. C'était le premier plan. Ça, premier plan, il est fichu, il ne marche plus. Bon, le deuxième plan, c'est la Pologne devient la base de l'OTAN face à la Russie. Et la Pologne, elle est candidate, elle applaudit des deux mains, on est russophobe depuis des générations, etc. Le président de la République, il va de son discours tout le temps, chaque fois que c'est possible, dit « oui, on est prêt », et il insiste sur le fait que ça se passera en dehors de l'OTAN. Alors j'insiste là-dessus. Ça veut dire que les États-Unis ont compris, et ça fait partie des suites du conflit d'Ukraine, les États-Unis ont compris que l'Union européenne n'était pas unie et ne serait plus jamais unie sur la question russe, c'est-à-dire sur son attitude vis-à-vis de la Russie. Alors c'était vrai, déjà on l'a vu, de la Hongrie, c'était vrai de la Croatie, la République tchèque traîne les pieds, les Bulgares traînent les pieds, etc. Donc les États-Unis ont compris que l'OTAN, dont ils sont les maîtres, et où vous savez que toutes les décisions se prennent à l'unanimité, que jamais l'OTAN accepterait d'entrer en guerre contre la Russie. Et donc, en fait, c'est la Pologne qui prend toute seule la charge de cette attaque future de la Russie telle qu'elle est imaginée, rêvée par les États-Unis d'Amérique. C'est-à-dire que les États-Unis isolent la Pologne de l'OTAN, traite avec elle. Il y a déjà 10 000 soldats états-uniens sur le sol polonais. Il en arrive de plus en plus. Ça veut dire que la Pologne devient la base avancée des États-Unis. Non plus de l'OTAN, qu'on met hors jeu parce que l'OTAN, c'est trop compliqué, c'est trop divisé, c'est trop tard. Il reste que la Pologne qui est prête à jouer ce rôle. Et c'est catastrophique parce que la Pologne se retrouve dans les plus mauvais de ses rôles, c'est-à-dire que la russophobie lui fait faire n'importe quoi. Vous savez que ça s'est très mal terminé, puisque à un moment donné, dans son histoire longue, la Pologne a disparu totalement. Totalement parce qu'elle avait, elle s'était fâchée avec tout le monde, à la fois avec les gens de l'Est et les gens de l'Ouest, et on en avait assez de cette position. Bon. La Pologne est en train d'être utilisée, manipulée par les États-Unis, comme elle l'a été au moment où les États-Unis ont favorisé l'élection d'un pape polonais pour compliquer la vie de l'Église chrétienne catholique. Ça l'a, comme les États-Unis ont manipulé Solidarnosc, Eva et Lech Walesa, voilà le rôle de la Pologne, et la Pologne se jette dans les bras de ce projet états-unien. C'est ça qui est en train de se passer. Donc, revoyez bien, enfin, on ne va pas vous expliquer ça tout de suite. Le découpage, si vous voulez insister là-dessus, le découpage du territoire actuel de l'Ukraine, il est très largement entamé. Et chacun, en particulier la Pologne, qui voit un gros morceau lui revenir, qui serait la suite du fameux royaume polono-lituanien du XVIe et XVIIe siècle, a des ambitions démesurées. Mais elle a des ambitions en tant qu'agent d'exécution de la politique anti-russe des États-Unis d'Amérique. C'est ça qu'elle ne voit pas et c'est ça qu'elle ne comprend pas, parce qu'elle rêve d'une puissance qu'elle a eue temporairement, qu'elle n'a plus, et il faut qu'elle serve simplement de bonne esclave, hein, de la puissance dominante. À nous de bien réfléchir à cette situation-là. Qui est en train de... Alors, c'était pas du tout acquis au mois de février 2022. Mais l'évolution de la situation sur le terrain fait que voilà le nouveau projet états-unien tel qu'il est, dans les formes qu'il va prendre ou qu'il veut prendre. À nous de le comprendre pour éviter qu'en particulier, et c'est pas le seul, notre pays évite de tomber dans ses ornières et dans ses calculs dramatiques, puisque c'est des calculs de haine. Quand on parle sur la russophobie, on se prépare à faire la guerre. C'est tout. La russophobie est toute phobie nationale et mauvaise conseillère. C'est de ça qu'il faut que nous nous pénétrions. Voilà ce que je voulais dire. On se retrouvera donc la semaine prochaine pour compléter sur ce tableau. Et on remercie beaucoup Roselyne. À bientôt.
Rose.